Dans ce thème 3, il est question des remises en cause économiques, politiques et sociales des années 70 à 1991. Et le premier chapitre insiste sur la modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux. Donc, les auteurs du programme partent avec l'idée que, avant le milieu des années 70 à peu près, il y avait un certain nombre de grands équilibres dans le monde. Grands équilibres politiques à travers la guerre froide et l'opposition de deux modèles que nous avons déjà étudiés. Grands équilibres économiques à travers la situation particulière de forte croissance connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce que vous connaissez sous le nom des Trente Glorieuses. Bon, on peut estimer que c'est une vision bien évidemment simplificatrice, mais ce qui est réel, c'est que à partir du milieu des années 70, il va y avoir toute une série de remises en cause, de transformations en tout cas, qui vont faire sentir aux gens qui ont vécu cette époque, comme les vieux comme moi, que quelque chose avait vraiment changé et que le monde était apparemment différent, moins sûr peut-être, en tout cas plus complexe. Cette évolution, elle est d'abord perçue à travers donc l'arrêt de la croissance économique, un arrêt de la croissance économique dont on va rendre responsables les chocs pétroliers. Les chocs pétroliers qui seraient à l'origine de ce qu'on a appelé la crise économique mondiale des années 70. Alors c'est une vision qui est une vision simplifiée des choses. Effectivement, il y a une augmentation des prix du pétrole en 1973-1974, augmentation qui est la conséquence de la guerre du Kippour entre Israël et les pays arabes. Mais ce n'est pas le seul facteur. La croissance économique était déjà en train de s'essouffler bien avant cette crise pétrolière. En tout cas, l'Occident vit cette deuxième partie des années 70 avec ce sentiment donc d'être entré dans une crise, ce qui économiquement parlant n'est pas tout à fait juste. Il s'agit plus exactement d'un ralentissement de la croissance. Mais ce ralentissement de la croissance génère des problèmes sociaux importants, notamment une forte augmentation du chômage, tandis que les prix augmentent, c'est un phénomène d'inflation. Pour lutter contre cette crise, les théories qui fonctionnaient depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire ce que l'on appelle la relance économique, l'injection par les États d'argent pour faire fonctionner l'économie, pour donner du travail, ces modèles-là sont remis en cause car ils ne sont pas ou ne paraissent pas efficace et au contraire, ce qui va être mis en avant, c'est une politique inverse, c'est-à-dire une politique de libéralisation et de dérégulation. Cette politique, elle va s'incarner dans les pays occidentaux à travers l'arrivée au pouvoir de deux personnalités marquantes des années 80. En 1979, au Royaume-Uni, c'est la conservatrice Margaret Thatcher qui devient Premier ministre. Et en 1980, est élu aux États-Unis Ronald Reagan, qui lui aussi est un défenseur de ses idées libérales, puisque dès son premier discours, il pourfend l'État, dont il est pourtant le représentant, en disant que ce n'est pas de lui qu'on doit attendre la solution des problèmes, puisque c'est lui, l'État, qui est le problème avec les nombreuses dépenses et réglementations qu'ils peuvent mettre. Donc on entre dans un monde dans lequel la politique menée en matière économique va être de plus en plus une politique de libéralisation. Libéralisation, ça veut donc dire que plus de droits pour les entreprises, moins de contraintes infligées de la part des États. Ça peut prendre par exemple en France la forme de ce qu'on appellera l'autorisation préalable de licenciement, c'est-à-dire que, alors que jusqu'alors on pouvait, on devait prendre des précautions avant de licencier, eh bien désormais les patrons seront beaucoup plus à l'aise pour se débarrasser des ouvriers ou des travailleurs qu'ils estiment être en nombre trop important. Cette évolution économique s'accompagne effectivement de changements dans l'ordre politique mondial, avec le sentiment par les États-Unis qu'ils sont en train de perdre finalement la partie face à l'Union soviétique et également face à de nouveaux ennemis qui se matérialisent dans le monde. L'ennemi nouveau pour les États-Unis à la fin des années 70 vient du Moyen-Orient. C'est un ancien pays allié des États-Unis qui bascule, c'est l'Iran. L'Iran qui était donc dirigé par le Shah, donc empereur dignitaire pro-occidental, qui est bousculé par une révolution islamique qui s'incarne à travers un certain nombre de chefs religieux, parmi lesquels le principal est l'ayatollah Khomeini. L'ayatollah Khomeini donc revient en Iran au début des années de l'année 1979 et arrivé à la tête de l'Iran, il va mettre en place une politique donc d'islamisation du pays qui va passer sous le contrôle de la loi islamique, la charia, et en même temps une politique à l'extérieur qui va consister à essayer de nuire par tous les moyens possibles aux États-Unis et à leurs alliés, parmi lesquels évidemment l'État israélien. À la suite de cette révolution islamique en Iran, le rejet de l'Occident va gagner dans les pays du Moyen-Orient à travers l'organisation de différents groupes politiques ou groupes armés qui vont donc lutter contre le grand Satan américain et son allié dans la région qui est l'État d'Israël. Dans cette période, les évolutions politiques positives de notre point de vue sont plus rares. On signalera, mais pour passer très rapidement dessus, parce que c'est évoqué dans le programme, le fait que on voit un progrès de la démocratie en Europe, un progrès de la démocratie en Europe qui concerne des États méridionaux, jusqu'alors dirigé par des dictateurs, c'est le cas au Portugal, en Espagne, en Grèce, qui au milieu des années 70 deviennent des démocraties après respectivement la fin du régime d'Antonio Salazar, l'Estado Nuevo, pardon, au Portugal, la mort du général Franco en 1975 en Espagne, qui est remplacé par le roi Juan Carlos, qui va alors qu'on ne s'y attendait pas, rétablir la démocratie dans son pays, et toujours au milieu des années 70, en Grèce, la fin de ce qu'on a appelé le régime des colonels, donc qui était un régime dictatorial. Pourquoi évoquer ces évolutions-là ? Ben parce qu'elles vont avoir un impact sur la croissance et le développement de la communauté économique européenne, qui va s'ouvrir donc vers des États du Sud. Le seul État du Sud qui existait à ce moment-là dans la communauté, c'était, si on excepte la France, l'Italie. Et donc, cela va se traduire dans les années 80 par un élargissement de la communauté européenne vers le sud. D'abord, au début des années 80, la Grèce, puis au milieu des années 80, la Grèce et le Portugal. Mais évidemment, ce qui va le plus ébranler ces fameux grands équilibres politiques, c'est bien évidemment la fin de la guerre froide et la chute du communisme en Union soviétique et la chute de l'Union soviétique elle-même. On a ici une évolution qui n'était pas prévisible. Il y a bien évidemment quelques personnes qui l'avaient prophétisé, mais c'est toujours facile d'avoir raison après. Cette chute, en fait, elle intervient après une période de tension nouvelle, qui est la période que l'on appelle la période de la guerre fraîche, qui commence donc dans la seconde moitié des années 70 et qui occupe le début des années 80. Cette crise, elle prend naissance essentiellement d'abord en Europe avec ce qu'on appelle la crise des euromissiles, une crise qui est provoquée par le déploiement par l'Union soviétique de missiles à courte portée, missiles nucléaires bien évidemment, à courte portée dans les pays proches du rideau de fer, moyennant quoi les États-Unis vont réagir en installant leurs propres missiles en Allemagne de l'Ouest notamment. Donc cette crise des missiles, des euromissiles qui opposent les SS-20 soviétiques aux missiles Pershing 2 américains, elle va se dénouer de manière assez inattendue lorsque va arriver en 1985 au pouvoir en Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Gorbatchev est quelqu'un qui a compris que l'Union soviétique ne peut pas continuer cette course aux armements parce qu'elle y perd toutes ses capacités économiques. Donc il va proposer au président américain Reagan, qui est plutôt lui un va-t-en-guerre, qui a pointé l'Union soviétique comme étant l'empire du mal, il va donc proposer à Reagan de négocier sur des, non plus des limitations, c'est-à-dire on augmentera moins nos capacités d'armement nucléaire, mais sur des destructions d'armes nucléaires, donc c'est-à-dire des suppressions d'armes. Dans un premier temps, Reagan et tout le monde occidental regardent ce Gorbatchev de manière un petit peu étonnée. Qu'est-ce qu'il veut et pourquoi il fait pas comme les autres? Qu'est-ce que ça cache? Où est le piège? Et puis finalement, Reagan va finir par accepter la main tendue et cela va aboutir en 1987 à la signature du traité de Washington, qui est un traité qui, pour la première fois, prévoit la destruction d'armes nucléaires, et une destruction qui, en plus, pour éviter les coups fourrés, se fait de manière publique, c'est-à-dire avec des observateurs du camp d'en face. Donc des Américains vont assister à l'Union soviétique à la destruction d'armes nucléaires, tandis que des Soviétiques viennent aux États-Unis assister à la destruction d'armes nucléaires américaines. Ceci étant lancé, Gorbatchev va pousser encore plus loin, puisqu'il va proposer de réduire ce qu'on appelle les armements classiques, les avions, les chars, etc., etc. Donc de nouveaux accords seront signés avec George Herbert Bush, le successeur de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. Mais ce faisant, Gorbatchev, s'il est extrêmement populaire à l'Ouest, est très impopulaire en Union soviétique, très contesté, parce que la situation économique, malgré ses efforts, ne cesse d'empirer. Et ses propres alliés, c'est-à-dire les pays de l'Europe de l'Est, vont eux-mêmes être de plus en plus critiques vis-à-vis de Gorbatchev et vont être tentés de faire bande à part. C'est pour ça qu'en 1989, on voit commencer à craquer ce bloc de l'Est, avec un pays comme la Hongrie qui décide d'ouvrir le rideau de fer, c'est-à-dire de permettre le passage entre son territoire et le territoire autrichien qui est voisin. Cette évolution ne suscitant aucune réplique de la part de l'Union soviétique, mais on va avoir des pays qui vont se sentir obligés finalement de prendre leur destin en main sans se soucier un petit peu de ce que pense l'URSS. Et la conséquence de ça, la plus connue et la plus célèbre, bien évidemment, c'est le 9 novembre 1989, la fin du mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, on devrait plus exactement dire l'ouverture du mur de Berlin, cette ouverture qui devient donc le symbole d'une guerre froide qui est en train de se terminer. En 1990, on arrive à trouver un accord qui va permettre le 3 octobre 1990 la réunification de l'Allemagne. Et en 1991, Gorbatchev, abandonné de tous, assiste à l'implosion de l'Union soviétique qui explose en 15 États différents. Il se trouve donc à la tête d'une structure qui n'existe plus. Il démissionne donc en décembre 1991, il n'y a plus d'URSS, donc il n'y a plus de guerre froide, et quelque part, bien évidemment, le monde a considérablement changé.